Marshmallows.
Bonjour, on va peut-être commencer. Donc le sujet que vous proposez là, c'est les communistes et la religion. Ben, en particulier parce que la religion revient de plus en plus souvent dans l'actualité. Et vu de France, essentiellement au travers de la religion musulmane, de l'État islamique ou encore du mouvement de la secte Boko Haram. Alors je voudrais préciser que pour nous, ces mouvements djihadistes sont des mouvements politiques. Ils utilisent la religion pour instaurer leur dictature ou pour acquérir une influence sur des factions musulmanes de différents pays du monde. Ces groupes peuvent brandir le Coran ou un autre livre sacré ou non. Ils imposent par la terreur un pouvoir bien terrestre et cherchent à conquérir des territoires. Alors, même si aujourd'hui on parle essentiellement des groupes musulmans, encore une fois, vu de France, hein, en réalité, des groupes d'extrémistes religieux se développent à partir de toutes les religions et prétendent libérer l'humanité en instaurant ce qu'ils disent être les lois de Dieu sur Terre. Donc en Birmanie, les violences ont lieu contre les musulmans à l'appel de moines bouddhistes. Au Sri Lanka, les visées nationalistes des Tamouls ont une expression religieuse. En Inde, ce sont les fondamentalistes hindouistes qui s'attaquent aux chrétiens et aux musulmans. Et les extrémistes chrétiens, ben on les connaît mieux en général, que ce soit ici ou aux États-Unis en particulier, et les extrémistes juifs en Israël aussi. Mais dans ce forum, notre objectif, ce n'est pas de discuter de ces mouvements politiques extrémistes, mais plutôt de notre position par rapport à la religion et de l'attitude que doivent avoir des communistes révolutionnaires donc face à ce, par rapport à la religion. Alors en tant que communistes révolutionnaires, nous sommes athées, c'est-à-dire que nous sommes matérialistes. Nous pensons qu'il n'y a pas de force supérieure à l'origine de l'univers, comme de force supérieure qui dirigerait la société des hommes. Le sort des hommes dépend d'eux-mêmes et aussi des conditions dans lesquelles ils évoluent, c'est-à-dire qu'il dépend des techniques, des connaissances acquises pour dominer la nature et trouver de quoi satisfaire ses besoins. Les écrits de Marx sur la question religieuse insistent sur le lien entre le succès des religions et la situation d'exploité. Dans la critique de la philosophie hegelienne du droit, Marx écrivait, donc je le cite, « La religion, c'est le soupir de la créature écrasée, l'aune d'un monde sans cœur, l'esprit des temps mauvais. C'est l'opium du peuple. La suppression de la religion comme bonheur imaginaire du peuple n'est que la volonté d'un bonheur effectif. » Alors nous n'avons rien à changer à cela. La violence de l'exploitation, la précarité dans laquelle sont plongés les individus du fait du système capitaliste et de la crise qui se développe, favorise la religion. Mais Marx militait dans une période où le capitalisme avait un rôle progressiste, donc 30 ans après la Révolution française, qui avait été précédée dans toute l'Europe d'un mouvement de contestation de l'Église, de développement des sciences et de la philosophie matérialiste portée par les intellectuels de la bourgeoisie. Nous sommes, nous, confrontés à un capitalisme pourrissant, de plus en plus parasitaire, qui s'appuie sur des forces réactionnaires pour maintenir l'exploitation et son contrôle des richesses. Alors c'est là une des explications de la persistance et de l'influence de la religion dans notre société. Mais cela ne donne qu'une partie du raisonnement, puisque le mouvement socialiste et athée s'est développé dans une période où des millions de travailleurs étaient dans une situation extrêmement précaire. Les débuts de l'industrialisation, ça s'est fait sans contrat de travail, la grande majorité de la population perdait une espèce de sécurité, qui faisait qu'au moins on pouvait être comme ses parents, etc. Alors ce qui explique le renforcement de la religion vient aussi du fait que le mouvement ouvrier est en recul depuis 70 ans. Au 19e siècle et au début du 20e, les hommes, les femmes qui cherchaient une solution à leur propre exploitation étaient attirés par les idées communistes et rejoignaient les partis socialistes. Ces partis s'appuyaient sur le matérialisme dialectique, qui est aussi notre cas. Ils reniaient donc les idées religieuses, ils défendaient l'idée que l'histoire des sociétés était celle de la lutte de classe et que son évolution dépendait de celle des moyens techniques à sa disposition, non au sein de la classe ouvrière, et non pardon, de la volonté d'un être supérieur, d'un dieu ou de ses humeurs. Ces partis socialistes luttaient contre les préjugés au sein de la classe ouvrière sur le terrain religieux aussi. Alors que la bourgeoisie abandonnait la lutte contre l'obscurantisme, la religion, car elle était un outil finalement indispensable pour maintenir les exploités dans leur situation. Mais depuis l'isolement du seul pays où la classe ouvrière a réussi à se débarrasser de la bourgeoisie, c'est-à-dire l'URSS, et la victoire du stalinisme qui a suivi, le mouvement ouvrier a été dévoyé, transformé en appendice des appareils d'État de la bourgeoisie. Les partis communistes ont vendu le poids qu'ils représentaient dans la classe ouvrière pour les mettre à la remorque des mouvements nationalistes ou tout simplement dans l'espoir de quelques strapontins ministériels comme nous l'avons vu en France avec le Parti communiste français. Alors trois événements ont été l'expression de la progression de la religion, des idées religieuses au sein de la classe ouvrière, puisque c'est, je parle bien au sein de la classe ouvrière et pas seulement au sein de la population. Et ils ont à leur tour, ces événements, favorisé les tensions religieuses. Alors, à la suite de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, ce sont des milliers de Juifs d'Europe qui ont rejoint la Palestine pour y créer un État juif, alors que nombre d'entre eux avaient été des défenseurs des idées communistes. Israël est devenu le bras armé de l'impérialisme dans la région, ouvrant des relations particulièrement violentes entre juifs et musulmans dans les pays arabes au Maghreb. En Iran, la révolte de la population contre le régime du Shah à la solde de l'impérialisme américain a permis la victoire de Khomeini, alors que la classe ouvrière nombreuse combattit était musulmane. En Pologne, dans un des pays de l'Est contrôlés par l'Union soviétique et où avaient eu lieu des révoltes au nom du communisme à la mort de Staline, le réveil du mouvement ouvrier s'est fait sous la direction de l'Église catholique. Depuis, les idées religieuses, les partis religieux ont poursuivi leur progression. Alors quel problème ça nous pose par rapport aux travailleurs, cette augmentation de l'influence de la religion? Bah d'abord, tous les religieux affirment qu'au sein de leur communauté religieuse, les hommes sont frères. Ben pour nous, qu'on soit de la même religion ou pas, il y a les exploités d'un côté et les exploiteurs de l'autre. Nous sommes frères quand nous subissons la même exploitation. Donc bien plus de liens unissent le travailleur français avec un travailleur d'Arabie Saoudite que le travailleur d'Arabie Saoudite avec les dignitaires de son propre régime. Donc bien qu'ils soient de la même religion. Il y a bien plus de proximité, de préoccupation, de façon de raisonner entre les ouvriers du monde entier, quel que soit leur niveau de vie, qu'avec leurs soi-disant frères de religion lorsqu'ils font partie des riches. Les religions divisent. Elles divisent les hommes entre ceux qui acceptent le message divin, qui délivrent et se fient aux rites qui sont proposés, et les autres qui croient à une autre religion ou alors qui n'en ont aucune. En comprenant le monde selon le prisme religieux, il n'est pas possible dans la même entreprise d'avoir des intérêts communs, car les croyants d'une religion rejettent et s'opposent à celle des autres. Les religions désarment aussi les travailleurs au travers des aspirations qu'ils développent, le paradis dans l'au-delà ou la fin des souffrances terrestres pour les grandes religions asiatiques. Ce paradis passe par la quête individuelle et une obéissance aux forces supérieures et terrestres qui en sont les relais. Puisque ces relais, ce sont les institutions religieuses qui ont été quasiment de tout temps se plaçaient du côté des possédants, du pouvoir, quand des fois même ils incarnent au sens strict, puisque dans un certain nombre de pays, ce sont encore des religieux qui sont des propriétaires terriens et qui, à ce titre, oppriment une partie de la population. Leur anticommunisme viscéral n'est pas un détail, une simple question d'opinion. C'est une marque de fabrique liée au lien profond qui unissent la hiérarchie religieuse aux classes possédantes. Même les ascètes bouddhistes qui défendent la méditation, le travail intérieur comme moyen de trouver la paix, semblent donc se placer en marge de la société capitaliste ou des sociétés d'exploitation qui l'ont précédé, ne le sont pas. Non seulement ils vivent du travail des autres, mais ils offrent un dérivatif à la colère contre les injustices. Un autre aspect aussi, en défendant l'oppression des femmes. La religion propose un autre dérivatif, cette fois-ci aux hommes exclusivement, celui d'être eux aussi des exploiteurs, mais contre leurs femmes. Ou des femmes en général, ça dépend des cas. La religion tend à grâce aux difficultés d'existence des travailleurs, conditions qui sont amplifiées par la crise et qui, du fait du recul ouvrier, on ne peut pas faire disparaître le sentiment religieux, le mode de raisonnement qui y est lié, les superstitions dans la société capitaliste d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, on pense, ne faut pas élaborer un programme anti-religieux, hein, dont un des objectifs serait de se battre contre la religion. Pour vous dire que c'est quand même un héritage du mouvement communiste, je voudrais compléter l'extrait de Marx de tout à l'heure, c'est vraiment la suite. Hein. Devant la religion comme devant l'Église, devant les travailleurs catholiques comme devant leurs chefs, une seule attitude paraît possible pour les socialistes, éclairer ces frères de classe sur la nature de leurs maux, les entraîner chaque jour dans la lutte contre les oppresseurs, refuser tout compromis avec la société qui meurt, avec les profiteurs et ses préjugés, avec ses mensonges et ses églises, rassembler enfin toutes les forces de la libre pensée de la révolution pour préparer l'assaut final en vue de la libération matérielle et intellectuelle et morale de l'humanité. Donc l'essentiel, hein, défini par Marx, c'est la lutte pour les objectifs politiques et économiques pratiques, et donc dans une lutte idéologique qui serait subordonnée. Hein, c'est-à-dire une lutte contre les idées religieuses au sens strict. Si les communistes révolutionnaires proclamaient la lutte contre la religion comme une priorité, comme un objectif, et se focaliser sur cette question, cela reviendrait à participer à la division du monde du travail, ce que j'ai reproché tout à l'heure aux religions. De la même façon que les divisions nationales, hein, qui fait que la bourgeoisie, enfin, ça permet à la bourgeoisie de dresser d'un côté les travailleurs d'une nationalité face aux travailleurs d'une autre. Donc ça serait destiné à un poison aussi néfaste que celui du nationalisme. Alors, nous n'avons aucune raison de rajouter une division de plus. D'autre part, la révolution prolétarienne, elle se fera avec des masses imprégnées de préjugés, de croyances. La révolution russe le montre bien. Ce sont des millions de travailleurs, bien loin des communistes, qui l'ont menée. Ils l'ont fait pour en finir avec la guerre et l'exploitation. Des millions de paysans s'y sont engagés pour obtenir les terres. Leur choix était un choix de classe, c'est-à-dire qu'ils ont mené leur combat pour satisfaire leurs revendications, la terre, le pain, la paix. Contrairement à d'autres courants, donc nous ne pensons pas qu'il faut d'abord changer les hommes pour parvenir à changer la société. Et ce sont les conditions d'existence des travailleurs et de la population qui sont à l'origine du poids de la religion. Donc du coup, c'est vraiment contre ces conditions de vie qu'il faut se bagarrer, contre ceux qui imposent ces conditions de vie, et non pas sur les idées que peuvent avoir les travailleurs qui subissent cette oppression. Le renversement de la bourgeoisie et la mise en place de la dictature du prolétariat créeront des conditions pour rendre possible la disparition de la religion. Elles commenceront par rendre faire de la religion une affaire privée. Elles se donneront aussi comme objectif de lutter contre les préjugés, les croyances religieuses, les superstitions par l'éducation. Et puis, et c'est surtout ça, la révolution prolétarienne, elle développera les bases matérielles de la société, elle la réorganisera pour permettre aux hommes de mieux contrôler la nature et de sortir de l'incertitude du lendemain et de mettre fin à l'exploitation et aux inégalités. Mais même lorsque la société sera transformée, en tout cas quand elle aura déjà bien avancé cette transformation, cela prendra probablement encore des années, voire plusieurs générations, pour se débarrasser complètement de la religion. Car il n'est pas facile pour des millions d'hommes et de femmes d'abandonner les rites, les croyances, les raisonnements religieux qui sont ancrés depuis des siècles dans les sociétés humaines. Alors en conclusion, les militants du Parti communiste, enfin de deux partis communistes révolutionnaires, se regroupent sur la base d'un accord profond avec le matérialisme. Donc ils se doivent d'être athées. Et leur activité politique ne doit pas se situer sur ce terrain. Militer pour changer le monde au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire se débarrasser de l'exploitation, pour pouvoir réorganiser la société de façon à ce qu'elle soit contrôlée par les exploités d'aujourd'hui, pour la satisfaction des besoins de tous les habitants de cette planète, ouvrir la voie à une société où chacun pourra développer ses aspirations et ses capacités, c'est adopter ce combat communiste. Et donc c'est cette théorie matérialiste qui est un outil pour les combats qui sont à mener. Les théories religieuses, elles promettent la félicité dans l'au-delà, dont elles disent qu'il existe. Elles considèrent que sur Terre, la société où nous vivons, un patron catholique, juif ou musulman, peut avoir des intérêts communs avec ceux qu'ils exploitent, parce qu'ils ont la même religion. Mais si les communistes sont donc matérialistes et s'opposent à cette façon de penser des religieux, la lutte anti-religieuse et ou anti-cléricale selon les cas n'est pas leur combat. Mais pour l'instant, le recul des idées communistes et la quasi-disparition du mouvement ouvrier renforcent le poids des idées religieuses, et cela peut paraître désespérant, mais la dégradation des conditions d'existence des travailleurs, la violence, le parasitisme de la bourgeoisie ne manquent pas de provoquer des luttes de la classe ouvrière, et à notre avis, elle redécouvrira justement les idées communistes, et donc aussi les idées
Pour l'exposé est parti sur un constat qui me paraît assez fou, il n'y a pas de progression des idées religieuses en Europe notamment et en France en particulier, parce que en France c'est presque 50% de la population aujourd'hui qui s'affirme sans religion. Et une sécularisation qui est désormais manifeste dans beaucoup de pays, de plus en plus d'Allemands par exemple, renonce à se faire ponctionner une somme d'argent pour financer, faire ponctionner soit un salaire, une somme d'argent pour alimenter les caisses de l'Église. Et on retrouve beaucoup d'autres principes de rejet des religions dans la plupart des pays d'Europe. Donc il est faux de dire qu'il y a une progression des religions en Europe. Par ailleurs, le christianisme en particulier connaît, à mon sens, une désaffection que chacun peut constater. On a l'air fréquenté les églises, on voit surtout des chemins blancs. Et le taux de pratique religieuse parmi des gens qui se disent catholiques eux-mêmes est extrêmement faible. On doit être de l'ordre de 5%. Pour ce qui est de la position qu'un communiste révolutionnaire est censé avoir, moi déjà j'aime pas beaucoup la formule. Quand je dis j'aime pas beaucoup, c'est plutôt un euphémisme. Je crois que chacun devrait être libre en tout cas de décider en conscience ce qu'il doit faire et comment il doit se comporter et procéder. Moi je suis pas d'accord. Je pense que le combat contre les religions doit être évidemment sinon pas l'objectif unique, mais doit être un objectif qui convient de ne pas négliger, parce qu'on ne peut pas considérer que quelqu'un qui est bloqué par sa culture religieuse va être spontanément porté vers l'émancipation et en particulier vers le mouvement collectif révolutionnaire. Il faut donc agir tout simplement sur les deux tableaux et cesser de s'auto-censurer, de se censurer tout court, comme ça se fait par exemple sur des sites que je qualifierais pour ma part d'islamo-gauchiste, comme par exemple le site Bella Ciao. L'islamo-gauchisme, c'est une réalité qui est quelque chose qu'il faut combattre, qu'il faut dénoncer en tout cas, et combattre si on peut le faire. Donc il y a quand même si à gauche, pas lutte ouvrière, mais si dans beaucoup de partis de mouvements de gauche, on a une pudeur particulièrement malvenue à propos des méfaits de l'islam. J'ai bien dit l'islam et pas l'islamisme. Il faut être clair là-dessus. Les méfaits de l'islam, donc on a une pudeur qui est tout à fait néfaste. Il faut la dénoncer. Eh bien, il y a des émissions comme Radio Libertaire, maître Didio le dimanche de 10h à 12h et le citadisme.org. Donc c'est une excellente antidote. Il ne faut pas se laisser influencer, en particulier par, et je terminerai là-dessus, par des comportements qui ont cours au NPA, où on en vient à faire des meetings communs avec l'UOIF, qui représente tout simplement le fascisme vert.
Ouais, alors moi j'ai peut-être pas nécessairement de questions, mais je voulais réagir à ce qui vient d'être dit. Le monsieur nous dit en introduction que la pratique du catholicisme en Europe recule et qu'en France, du coup, la question de la lutte contre la hiérarchie religieuse catholique n'est pas véritablement un problème. Pour nous signaler ensuite que c'est la conclusion qu'on peut tirer. Et la conclusion qu'on peut tirer de ce qui vient d'être dit, pour conclure par le fait que la menace principale serait l'islamo-gauchisme. Alors personnellement, je ne suis pas spécialement islamo-gauchiste. Je trouve qu'il peut y avoir une politique opportuniste vis-à-vis certaines organisations religieuses, etc. Mais consigner, désigner comme problème principal, finalement, la lutte contre un courant parmi une minorité religieuse qui par ailleurs est stigmatisée de manière permanente dans les discours médiatiques, dans les discours de la classe politique, et faire comme si on n'avait pas eu la manif pour tous, où des millions de personnes, à l'appel du clergé catholique, ont combattu les droits des homosexuels et ont stigmatisé la minorité homosexuelle.
C'était pas la classe ouvrière.
Je trouve ça un peu scandaleux, je trouve ça un peu relou ce discours qu'on retrouve à l'extrême gauche, de plus en plus, qui est finalement le discours symétrique de ceux qui s'allient avec des courants effectivement qui peuvent être réactionnaires parmi les minorités musulmanes. Donc, moi personnellement ça me saoule.
Donc on va répondre et ensuite on reprendra des questions, d'accord?
Alors je développe
un peu. Oui, alors bien sûr c'est compliqué parce qu'il y a un peu des mouvements un peu puissants, qui peuvent paraître contradictoires. C'est vrai qu'en même temps il y a beaucoup moins de pratiques religieuses en Europe. C'est vrai que l'église n'arrive plus à que les curés, etc. Mais en même temps, il y a aussi des mouvements dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a aussi une fraction de personnes enfin, qui rejoignent les sectes religieuses. Alors c'est pas forcément le catholicisme, ça peut être des sectes protestantes, ça peut être des gens qui sont attirés par le bouddhisme, des gens qui sont attirés par tout un tas de courants religieux. Et puis quelque chose que quand même je noterai aussi, et donc là c'est vu de France encore une fois, parce que dès qu'on change de zone du monde, on n'a pas forcément la même photographie, hein, et la progression des religions peut apparaître de façon encore plus nette, mais dans la population immigrée, donc d'origine, de confession musulmane, et ben c'est vrai que nombre de travailleurs qui sont arrivés quasiment, on allait les chercher dans leur pays d'origine pour les amener à travailler en France, ils y ont découvert aussi d'autres idées. Un certain nombre d'entre eux se sont détachés de la religion, alors pas forcément complètement, mais en partie. Ils ont arrêté de pratiquer, etc. Et là, on observe bien un regain de pratiques religieuses et de repli vers la religion, et qu'on trouve encore une fois dans toutes les religions. C'est pas, pour nous ici, c'est peut-être plus visible pour la population de confession musulmane. Mais enfin, il suffit de se balader à Paris pour voir que tous les courants juifs apparaissent de façon beaucoup plus visible. Avant, c'était réduit à une ou deux rues quasiment. Maintenant, il y a des quartiers entiers, il y a des zones entières. Et c'est la même chose pour ceux qui sont de confession musulmane. Et je reprendrai ce que disait le camarade dans la deuxième intervention. Dans le mariage pour tous, on a vu les catholiques, on a vu une fraction assez importante de la population qui se reconnaissait dans la religion catholique. Alors elle ne fait peut-être pas l'église toutes les semaines, elle pratique peut-être pas tout ce qu'il faut dans la religion catholique, mais n'empêche que quand là il y a un combat qui est quand même appelé par des dirigeants qui s'affirment quand même catholiques, etc., là ils se retrouvent derrière.
Il y avait des musulmans.
Alors, il n'y avait pas que.
Il y avait des musulmans dans cette manif.
Du mouvement catholique, hein, bien évidemment, il y avait effectivement des courants de toutes les religions. religion, hein, puisqu'en fait, toutes les religions sont d'accord contre l'homosexualité. Donc comme ça, il y a c'est vrai qu'il y a deux questions, grosso modo, vraiment l'unanimité au sein des religions.
Les femmes et
alors peut-être que j'en oublie, hein, en tout cas, les femmes et l'homosexualité, ça va, on les retrouve partout. Et bien évidemment, ma camarade Claudice à Lorraine, l'angle social, oui bien sûr, mais ça je crois que je l'ai pas mal dit dans les voilà. Donc j'ai perdu le titre de ce que je voulais dire. Donc en même temps, il n'y a peut-être pas une progression de la pratique religieuse très nette en Europe, mais il y a quand même des courants religieux qui se développent, des sectes. Et sur un certain nombre de plans, en tout cas, on avait une partie des populations qui justement se détachaient de la religion en arrivant dans un pays comme la France, qui a quand même été marqué par la Révolution française, qui n'est pas le cas de toute l'Europe, hein, parce que là aussi, en Allemagne, ça ne se pose pas de la même façon, etc. Ça, on peut quand même dire qu'il y a une certaine progression. Voilà. Et le nombre de débats, c'est ça qui motivait un petit peu. Regardez les sujets, enfin pour ceux qui viennent depuis plusieurs années, si vous regardez les sujets qu'on a mis en avant cette année dans les forums politiques, c'est vrai que les problèmes liés plus ou moins directement à la religion font plus l'actualité parce que c'est des choses que nous-mêmes nous retrouvons à discuter autour de nous. Hein, c'est pas, et on ne les discute pas parce qu'on n'existe pas quand même. Alors sinon, le premier camarade qui est intervenu, d'écouter Radio Libertaire, je suppose qu'il se reconnaissait un peu plus dans ces idées-là. Je ne sais pas s'il est anarchiste au sens strict ou pas, mais effectivement, c'est quelque chose qui nous différencie vraiment avec les anarchistes. Ça fait partie des choses qui nous opposent. C'est qu'effectivement, nous, on ne fait pas la religion un combat. Ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas si vous voulez, dans les entreprises, dans notre activité militante au quotidien, ce n'est pas le sujet qu'on met en avant, les bagarres qu'on met en avant, les combats qu'on essaye de mener. Ça ne veut pas dire qu'on ferme notre gueule sur ce qu'on pense. Je crois qu'ici, ne serait-ce que la fête, c'est assez visible. Et d'une manière générale, toute l'année, les gens savent qu'on est. Dès qu'ils commencent à s'intéresser un peu à nos idées, bah, ils savent qu'on est athée, ils savent qu'on est contre la religion parce que ce sont les religions qui appuient l'ordre social, qui le défendent, qui participent à ça, donc on ne le fait pas, mais en même temps, ce n'est pas nos objectifs, ce n'est pas ce qu'on va mettre en avant dans les luttes qu'on va proposer, dans les axes qu'on va mettre en avant, s'il y a des luttes de travailleurs, etc., ce n'est pas ça qu'on mettra en avant, on ne va pas lutter pour que les gens ne soient plus religieux, parce qu'on ne pense pas que ça soit, d'abord on ne pense pas que ça soit possible, hein. Justement, parce que la religion vient de toutes ces conditions de vie qui fait qu'il faut un moment se retrouver derrière une identité, derrière être tellement inquiet de son avenir qu'on finit par même se trouver immoral. Parce qu'on est dans une société où, quelque part, il n'y a pas de morale. Écoutez, d'ouvrir sa télé pour voir que c'est des millions qui valsent d'un coin de la terre et pendant ce temps, il y a des gens qui crèvent de faim, etc. Donc comment trouver une morale dans ce truc-là? Eh bien, il y a des gens qui vont chercher auprès de la religion une morale pour leur propre vie, pour ne pas tomber dans la délinquance, pour... Il y a autant de cas que d'individus quasiment, mais n'empêche qu'on voit que ça vient de là, et on connaît, je pense, tous ici, des cas particuliers, des gens en chair et en os qui ont rejoint des courants religieux parce qu'ils ressentaient ce besoin-là. Et c'est un besoin qui est lié à la société, à la crise, et un peu à l'air du temps, hein, qui correspond à ce recul du mouvement ouvrier. Bon, j'ai peut-être pas répondu à tout, mais on va peut-être reprendre des questions.
Un petit peu en réaction à ce que j'ai entendu, je trouve que dans cette manière, toujours de parler de la question, notamment de l'islam en France, ça me fait un peu toujours rire lorsque j'entends dire qu'il s'agit d'une population stigmatisée. En fait, je ne comprends pas ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une population, laquelle ? On parle de qui ? Des musulmans ? De l'islam ? Parce que on peut, je pense, sans insulter les gens, critiquer pas seulement l'islamisme, mais l'islam en tant que religion, en tant que dogme, c'est, ça ne veut pas dire qu'on insulte les gens par rapport à une pratique. Mais quand on parle de population stigmatisée, moi je ne comprends pas cette manière de se positionner sur une manière d'être stigmatisée. Ça veut dire quoi? Qu'on va défendre une religion sous prétexte qu'elle serait plus stigmatisée qu'une autre, ou qu'elle n'aurait pas la même place qu'une autre. Donc cette manière de se positionner, je ne comprends pas. Et je remarque toujours que ça vient de personnes qui ne savent pas de l'intérieur ce qu'est la religion musulmane. Et on a toujours un petit peu l'impression qu'il s'agit d'une espèce de bonne conscience paternaliste, de gens qui ont l'impression, dans une période un petit peu post-coloniale, de devoir dire un petit peu pardon pour ce qui s'est passé dans l'histoire et de vouloir surtout pas froisser des populations qui sont issues d'immigration et d'appeler un chat un chat. Moi je suis désolé, j'ai grandi dans ce qu'on appelle une culture musulmane et je peux vous assurer que quand on connaît de l'intérieur ce que c'est, quand on en sort, on n'a pas envie d'y trouver des choses qui pourraient être plus ou moins convenables ou pas convenables. Parce que la majorité des gens qui aujourd'hui critiquent l'islam, l'ont fait à partir de quand? À partir du 11 septembre. À partir du moment où l'islam ou l'islamisme s'est attaqué au monde occidental. Mais l'islamisme, c'est un dogme politique qui a tué principalement des gens musulmans. Donc il faudrait peut-être, avant de parler à la place des gens dans les pays, leur demander qu'est-ce que eux-mêmes ils en ont pensé. Enfin, faut quand même aussi savoir que la plupart des pays musulmans, il n'y a pas de distinction, comme en France, entre la vie publique et la vie privée. Là-bas, la loi, c'est la religion. Comment voulez-vous que les gens qui sont même issus de cette culture, même quand parfois ils la rejettent, c'est des gens qui ont acquis depuis qu'ils sont gosses, on leur a répété que la loi, c'est Dieu. Mais est-ce que nous pouvons vous rendre compte la différence avec vous qui êtes tous nés ici, de ce que ça implique dans la manière de raisonner quand depuis que vous êtes gosses, on vous répète ça à longueur de journée? Alors, moi, je veux bien que vous me dites que oui, mais c'est une population stigmatisée. Enfin, l'islam est une religion stigmatisée, etc. Mais l'islam, c'est avant tout une religion qui fait du mal aux gens qui la subissent dans les propres pays, et y compris dans l'immigration. Et tant que les gens qui militent pour l'émancipation, y compris des immigrés, des travailleurs immigrés, n'auront pas compris que c'est pas leur rendre service que de défendre sous prétexte d'avoir peur peut-être d'être accusé de néocolonial ou de raciste, c'est pas du tout un service que vous leur rendez en faisant semblant de vous excuser ou d'avoir peur de critiquer la religion musulmane.
L'actualité, les protestants ont voté, hein, c'est démocratique, le week-end dernier, l'autorisation pour les pasteurs de bénir des couples homosexuels dans leur église. Donc pour le coup, on a une religion là qui a fait un pas en avant, même si franchement ils auraient pu le faire avant, c'est aussi une religion dans laquelle justement les femmes et les hommes peuvent avoir le même statut. Ça ne veut pas dire que c'est partout comme ça, mais au moins c'est une religion dans laquelle c'est pas le sexe qui détermine si on a le droit ou pas d'apporter la parole de Dieu. Bon, c'est une chose. Et autre chose, ce que je trouve intéressant dans ce débat, et là aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la religion en soi, combattre la religion, ça n'a aucun sens. Parce que il y a autant de diversité de pratiques religieuses que d'êtres humains sur Terre, quoi. Et que pour moi, c'est un combat perdu d'avance. Et puis, comme disait le camarade tout à l'heure, c'est vrai que une religion, tant qu'on l'a pas vécu, c'est un peu difficile de se rendre compte de ce que ça a comme effet sur soi, sur la manière dont on se développe et sur les idées qu'on peut avoir ensuite. Et c'est pour ça que, comme on peut bien voir que la religion elle est utilisée plus que vécue par un certain nombre de gens pour véhiculer des idées en fait, et que pour moi c'est plus ça, c'est les idées véhiculées par les religions qu'il faut combattre et pas les religions en elles-mêmes, et ça il faut le faire par des actes, et c'est juste ça, et aller vers, je pense que le plus simple à faire c'est d'aller vers les gens qu'on estime, enfin qu'on a l'impression qu'ils sont religieux, discuter avec eux et leur prouver par A plus B que ben ouais, mais c'est ta religion véhicule des idées rien qu'inégales, en fonction de la couleur de la peau, du sexe ou de l'endroit où on est né, voilà, là il y a un problème et voilà.
On va répondre à toutes les interventions puis après je vais donner la parole.
Oui, alors, bon, moi, en tout cas, je partage l'opinion du camarade qui disait, enfin, même l'opinion de la camarade qui vient de parler, disant, c'est vrai que, enfin, tous ceux qui ont vécu dans la religion, mais là, je rajouterai, quelle que soit la religion, c'est pas plus la religion musulmane qui montre ça, c'est là où il n'y a vraiment aucune raison de stigmatiser la religion musulmane, parce que, en fait, on va retrouver la même chose, tout un tas de points communs entre les différentes religions. Alors bien sûr, il peut y avoir des différences, il peut y en avoir une qui est un peu plus tolérante vis-à-vis des homosexuels, mais enfin, comme tu le disais, elle a quand même mis beaucoup de temps, donc on va peut-être pas... les églises qui a pendant des années refusé la théorie de l'évolution, la théorie de ceci, la théorie de cela, je crois qu'il y a quelques dizaines d'années à peine, elle a plus ou moins accepté encore, je ne me rappelle plus exactement en quels termes, là aussi, et c'est pas toute l'église, donc après des siècles où on se faisait brûler parce qu'on osait dire que la Terre était ronde, bon, maintenant on peut dire qu'elle est ronde, il n'y a pas de problème. Bon, enfin, ça fait un peu plus longtemps quand même. Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, tous ceux qui ont vécu dans un carcan religieux, ben oui, bien sûr qu'à la fois, ils sont dedans, donc quelque part, ils ne se rendent même pas forcément compte qu'il y a un problème, parce que comme chacun d'entre nous, on a vécu dans un milieu familial, avec un certain nombre d'idées, etc., on est moulé par ça. Et effectivement, c'est un peu la confrontation avec les autres qui nous permet de nous rendre compte des différences et des possibilités d'autres choses, d'autres façons de raisonner. Maintenant, oui, le carcan religieux, c'est un vrai carcan parce que c'est quand même l'affirmation d'une série de vérités qui sont censées être plus ou moins éternelles, qui sont écrites depuis 2000 ans, etc. Et qu'après, on essaye de mettre à sa sauce pour que ça fonctionne avec la société moderne. Mais bon, bah, ça, c'est quand même effectivement un carcan important. Et ces religions, enfin, les grandes religions dont on parle, elles sont quasiment toutes nées il y a quand même 1000 ans, 2000 ans, et donc elles sont nées dans des sociétés assez, archaïques au sens technique du terme, hein, au sens où la société n'était pas encore très développée, etc. Et donc elles ont imprimé toute une série de mœurs qui sont quand même liées à l'époque. Bon, quand on lit des extraits de la Bible, etc., on peut être quand même pris d'effroi sur la façon de considérer les hommes, les esclaves, etc. Bon, c'était l'esclavage, et c'était normal dans cette société, ben, les textes religieux, ils reflètent ça. C'est normal, puisqu'ils sont écrits par des hommes, donc de toute façon, ils pouvaient difficilement dépasser leur propre société, quoi. Tout ça, effectivement, c'est un carcan, puis c'est un carcan aussi au travers des rites, des institutions et la préoccupation de comment on conduit sa vie, comment on la gère, par rapport à quels critères on la gère. Et effectivement, quand même, quand on est nationaliste, on considère que un mort, c'est pas le même et un mort français, c'est un mort français, et c'est pas la même chose qu'un mort allemand ou autre. Et bien, de la même façon, un mort juif, c'est pas la même chose qu'un mort musulman, et ainsi de suite. Et rien que ça, moi je trouve ça, enfin, c'est une division des hommes, c'est une division entre nous, et c'est. Ça vraiment, c'est révoltant, quoi. Donc, c'est comme si les morts ne faisaient pas le même. Provoquaient pas le même sentiment parce qu'ils sont de telle origine, ou de telle confession, ou de telle. Il n'y a pas de raison, quoi, à ce niveau-là. Oui, donc effectivement, vous êtes plusieurs à faire des références à des débats sur la gauche, ceux qui défendent ou qui caressent dans le sens du poil la religion musulmane et inversement ceux qui ne tapent que sur la religion musulmane et qui quand même quelque part la stigmatisent. hein, parce qu'on entend ça aussi. Moi, je pense que là aussi, tout ça, c'est un peu le reflet du fait que, effectivement, depuis les attentats du 11 septembre, etc., il y a un certain nombre de choses qui sont apparues de façon évidente dans la société, des groupes qui sont apparus de façon évidente, qui existaient déjà avant, comme un des camarades a dit. C'est vrai que les premières victimes, ce sont quand même des mouvements islamistes, ce sont des musulmans. Et ça pourrait, on pourrait dire la même chose quand même, là encore, des autres mouvements extrémistes, hein, pas seulement de celui-là. Donc effectivement, depuis qu'il y a eu ces attentats et depuis qu'il y a eu cette apparition de ces mouvements de façon vraiment évidente, ça a posé des tas de questions et tout le monde se positionne par rapport à ça. Et d'une certaine façon, l'État français prend aussi un certain nombre de positions. Il appuie d'une certaine façon, hein, les derniers attentats contre Charlie Hebdo, ça a été manifeste. L'État, Hollande sommet les musulmans de se prononcer pour savoir si c'était pour ou contre. Les gens se sentaient accusés d'être futurs terroristes. Et de l'autre sens, un certain nombre de personnalités politiques ont pris depuis un ton extrêmement violent, quasiment des appels au meurtre, face aux djihadistes ou aux futurs djihadistes ou à ceux qui pourraient le devenir, etc. Alors de part et d'autre, on voit que chacun, l'État, les hommes politiques, ils essayent de cacher quelque part la responsabilité de l'impérialisme, hein, parce que c'est leur responsabilité aussi. L'État français, il a une responsabilité dans cette évolution. Et donc du coup, eux, ça les arrange aussi de diviser les gens entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et quelque part, il y a une espèce de barrière qui se monte entre les deux. Et ça se, ça se télescope ces débats avec les débats sur les migrants qu'il y a quasiment en permanence, entre la montée de l'extrême droite ici, tout ça, ça se télescope, ça se révolte et ça donne effectivement des débats qui sont extrêmement choquants d'un côté comme de l'autre. Ben nous, on a envie de garder un peu, on espère en tout cas, la tête froide par rapport à tout ça, et de défendre à la fois le fait que toutes ces religions, ce sont des appuis de l'ordre social, de la bourgeoisie, de cette exploitation, et qu'il est hors de question que nous, on défende ces religions, et en même temps, de savoir que c'est pas sur ce terrain-là qu'on va réussir à gagner la grande masse de la population. Bien évidemment, il y a un camarade qui a été choqué que je puisse dire si on est communiste révolutionnaire, on est forcément athée, on est forcément comme ci, comme ça. Mais oui, c'est un choix. On n'oblige personne à être communiste révolutionnaire. Ceux qui veulent être communistes et autre chose, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en tout cas, nous, ils ne peuvent pas être des poudrières. Et c'est un choix. Vu le nombre de gens qui ne sont pas des poudrières, de toute façon, on ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc par contre, nous on pense qu'effectivement pour les militants c'est indispensable. C'est indispensable d'avoir cette conscience claire. Après, on peut militer avec des tas de gens qui vont partager une partie de notre programme. On peut faire un bout de chemin ensemble, il n'y a pas de. C'est pas un problème. Et dans les luttes, dans la période que nous espérons vivre un jour, c'est-à-dire de mouvements sociaux d'importance, la question qui sera centrale, ça ne sera pas la question de la religion. Si ça devient la question de la religion, on va se retrouver entre un camp contre la religion, un camp pour, et finalement, on se fera avoir aussi bien les uns et les autres en tant que travailleurs.
J'ai bien vraiment surpris par l'exposé, parce que si j'avais eu l'opération tirée, j'aurais sans doute sorti comme ça. Et si on m'avait demandé de le signer, j'aurais signé sans hésitation. Et j'ai bien vraiment surpris parce que souvent j'ai des accrochages avec une marque de notamment à la fête, sur des questions sur cette affaire-là. Et en particulier, à propos de l'affaire du voile, des interlocuteurs spécifiques dans l'étape consécutive. Avant de revenir là-dessus, je voulais dire que ce que j'approuve, par contre, particulièrement dans les ouvrières, c'est la critique de toutes les religions et toutes les formes de cléricalisme, notamment le maintien du pourvendeur en Alsace et en Moselle. Là, qui est tout à fait scandaleux, c'est que beaucoup de gens qui se proclament laïcs, hein, notamment au FN, ça ne choque pas du tout, au contraire. De même, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'acceptable que dans beaucoup de magazines et dans la plupart des magazines féminins, il y ait plusieurs pages sur l'astrologie. Parce que l'astrologie, bon, même si beaucoup de gens le disent en rigolant, c'est quand même un abrutissement aussi débile que l'abrutissement issu de la croyance en Dieu.
Ça n'a pas les mêmes conséquences sur les vidéos. Bon.
Maintenant, le truc à propos de certains comportements qui stigmatisent entre guillemets les musulmans, en général, qu'ils soient islamistes, qu'ils soient musulmans modérés, c'est la question de la tenue vestimentaire des femmes et la question des interdits alimentaires. Dans les deux cas, je pense qu'il y a des choses qui sont faites contre les musulmans qui finalement favorisent le développement de l'islamisme, l'islamisme militant. Une des premières remarques qui a été faite dans le débat, c'est que non, les religions ne progressent pas en Europe et notamment en France. Non, il y a moins de pratiquants mous, il y a beaucoup plus de militants activistes de toutes les religions. Et c'est à la limite plus préoccupant. Parce que des militants mous peuvent s'amollir de plus en plus et finir complètement par abandonner et les pratiques et les convictions religieuses. Les fanatiques, là, c'est pas évident. Alors, dans ma ville, à Nanterre, ben, bientôt il va y avoir un lycée musulman. Eh bien, je ne considère pas que ça soit un progrès. Or, une partie du développement de l'enseignement religieux, notamment musulman, celui qui progresse le plus, c'est à cause des brimades qui sont faites contre les filles voilées. Alors moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est scandaleux que des pères, des frères, des jeunes forcent une fille à porter le voile si elle n'a pas envie. Mais qui est-ce qu'il faut sanctionner dans ce cas-là? Est-ce que c'est la fille ou est-ce que c'est le parent ou l'entourage qui la force? Or, ça, tous ceux qui sont scandalisés du développement du voile dans nos banlieues, dans nos quartiers, c'est toujours contre les filles qui s'en prennent. Alors, ils mettent en avant le fait que les parents forcent les filles, mais eux, ils ne se gênent pas pour forcer les filles à s'habiller autrement. Je termine à propos de la bouffe. C'est pareil, et là, c'est plutôt du côté de la droite et de l'extrême droite que ça se pratique. C'est une méthode de discrimination, hein, interdire les menus de substitution. Bon, ben, vous ne mangerez du porc ou alors vous ne mangerez rien. Là, total, ben, là, s'il y a la possibilité pour les familles de mettre leurs gamins à l'école ou au lycée musulman, eh ben, ils le feront. Rien que pour ça.
La cantine, c'est pas un service obligatoire. Ça ne fait pas partie du service public, la cantine. Franchement, demain, si tu veux, on va à l'aéroport, on prend un billet, on va en Égypte, on ira faire un tour. Tu verras dans combien de temps tu voudras revenir.
Bonjour. Donc moi, je voulais aussi intervenir sur la question, l'islam, islamisme, stigmatisation, etc. D'abord, pour commencer, je suis entièrement d'accord avec ma camarade sur la question de l'athéisme révolutionnaire, parce que voilà, je considère que en tant que communiste marxiste révolutionnaire, on doit avoir des analyses plutôt matérialistes et donc concrètes de la réalité, de la matière, etc. Donc après, en fait, sur la question de la stigmatisation des musulmans et la question, la question du lien entre ça et la religion, etc. Moi, je pense que dans la société française aujourd'hui, il y a réellement une stigmatisation des musulmans, en fait. Après, c'est le problème, c'est comment dire, c'est cette utilisation justement, en fait, cette mise en avant de la question de la lutte contre les religions, la lutte contre enfin, les fanatismes, etc., pour stigmatiser finalement en fait, des populations et sans comment dire, biaiser un petit peu les discussions et comment dire, sans pour autant, plutôt pour empêcher justement en fait, l'interrogation sur. En quoi aussi consiste cette stigmatisation, parce qu'en fait il y a certes un racisme ordinaire en fait à l'égard des populations musulmanes, notamment issues de l'immigration. Il y a aussi l'idée en fait que le racisme aussi est structurel, c'est-à-dire en fait qu'il sert aussi à assigner à tout un chacun, selon son appartenance religieuse ou ethnique, une place dans les rapports de production. Donc en fait on a tendance un petit peu à insister sur le racisme ordinaire sans pour autant insister aussi sur le rôle en fait, du racisme et à quoi sert le racisme, que ce soit sur le plan national ou international. Et pour ça, en fait, on discutait avec sur la question en fait, du fait que la lutte contre la religion musulmane spécifiquement, en fait, elle est mise en avant que quand il y a contient surtout des intérêts. C'est-à-dire que, par exemple, la France, ça n'intéresse pas du tout de lutter contre l'obscurantisme religieux en Arabie Saoudite ou d'intervenir sur un tas de pays aussi qui bafoue complètement les droits de l'homme, les droits des femmes, etc. Mais elle met en avant la question de la lutte contre la religion et l'obscurantisme que quand elle a des intérêts économiques, comme je dis, que ce soit sur le plan national ou international.
Alors, par rapport au premier camarade, je pense que là, il va être moins agréablement surpris parce que, bien évidemment, les ouvrières, effectivement, on a choisi une position par rapport au voile et on est contre, comment dire. Pour nous, le voile, c'est pas une question religieuse, c'est une question d'oppression de la femme. Et c'est une façon quand même d'affirmer qu'il ne faut pas que les femmes soient visibles, il ne faut pas que leurs cheveux soient visibles, que les femmes en soi, c'est la tentation du péché, etc. Donc c'est tout ça qu'on rejette, c'est tout ça qu'on refuse d'accepter. Et après, cette histoire de voile à l'école, c'est une bagarre en fait. C'est pas une position dans l'absolu. C'est que ça a commencé il y a un certain temps et c'était le fruit de militants, c'était pas le fruit de gens qui, d'un seul coup, s'étaient pris de foi religieuse et donc ils se mettaient à porter le poil. C'était des gens qui étaient extrêmement militants et on l'a vu avec les femmes qui portaient le tchador en voiture, elles sont militantes. Derrière elles, il y a un certain nombre de gens qui mènent une bagarre. Près des avocats, on a tout un tas de choix. Alors, de toute façon, dans cette bagarre-là, nous, on avait envie d'affirmer non seulement notre cause, mais en plus d'affirmer aussi, d'abord d'affirmer notre solidarité avec toutes les femmes qui, dans le monde, se battent contre le voile. Ça, on ne pouvait le faire qu'en disant que cette fois, on était d'accord avec. Maintenant, cette fois, c'est pas nous qui l'avons faite. La loi, elle ne résout rien, hein, de toute façon. Après, est-ce que les filles, elles le portent parce qu'elles le veulent, parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles y sont forcées? C'est bien compliqué, hein, parce qu'il y en a qui sont extrêmement militantes, effectivement, et qui portent le voile de cette façon-là. Il y en a qui sont obligées de le porter. Il y en a, c'est ni obligé ni pas obligé, simplement, c'est une pression sociale. À partir du moment où, autour de soi, il y a tout un tas de gens qui font la même chose, tout un tas de gens pour vous dire que pour prouver que vous êtes un bon musulman, que vous êtes ceci, cela, etc., il faut le porter, et bien elles finissent par le porter. Bon, c'est par obligation ou pas par obligation? Là, on se retrouve à couper les cheveux en quatre parce qu'on n'en fait strictement rien. Quelque part, c'est une question qui n'a pas de sens. Nous, la seule question qui nous intéresse là-dedans, c'est de savoir dans quel camp on veut se mettre. Et bien, on veut se mettre dans le camp des femmes qui refusent de le porter. Des femmes qui, de par le monde, luttent pour ça, et dont un certain nombre risquent leur vie pour ça. Alors qu'ici, on ne risque pas sa vie. Et bien, profitons-en encore.
Ça dépend dans quel quartier.
Hein. C'est pas faux ce que tu dis. le camarade dit, ça dépend dans quel quartier. Oui, c'est vrai qu'il y a des quartiers où c'est pas drôle. Voilà. Enfin, effectivement, ça peut aussi se régler de façon par des violences. Mais même dans ces cas-là, notre solidarité, elle irait. Alors, on n'en a pas les moyens parce que nous ne sommes pas du tout une organisation de la taille qui serait nécessaire pour cela. Mais on trouverait normal de se bagarrer pour permettre à ces filles de vivre comme elles l'entendent, sans voile si elles le veulent. Et donc, de la même façon qu'on considérait complètement normal, si c'est dans le moyen, de défendre des travailleurs immigrés ou autres qui seraient attaqués, bah, de la même façon, on pense que ça serait naturel qu'un parti communiste révolutionnaire, ben bah, oui, défende les femmes qui se font agresser sur ce terrain-là. Et ça serait, enfin, si réellement ça prend... si on continue à avancer dans ce sens-là, il faudrait vraiment qu'on ait des organisations grossissent pour permettre ne serait-ce que ça, ne serait-ce de protéger ceux qui défendent un certain nombre d'idées. Maintenant, c'est pas du tout sur le terrain de la laïcité. C'est pas une histoire de est-ce qu'il faut avoir des signes religieux visibles ou pas visibles, c'est pas ça notre problème. Par rapport au lycée musulman, bah, moi je trouve que là aussi on se fait un petit peu avoir par la presse, etc. Parce qu'il y a un développement des lycées musulmans, il y a aussi un développement des lycées juifs, des lycées catholiques. Catholiques, j'entends pas seulement catholiques pour de vrai, c'est-à-dire une partie de l'enseignement quand même qui va dans ce sens-là, qui effectivement défend les dogmes catholiques, qui inculque aux enfants un certain nombre de valeurs, un certain nombre de façons de penser. Hein, qui sont le propre de la religion catholique. Et donc c'est toute cette évolution-là, c'est pas une seule évolution, donc c'est pas seulement une histoire de voile et de filles interdites à l'école à cause de ça. Alors, quant aux maires qui se lancent dans des bagarres sur l'alimentation, etc., là aussi on est face à un problème politique, on n'est pas du tout face à un problème de groupe au sens strict. Hein, d'un seul coup, ils se mettent à vouloir interdire tel choix, etc. Bon, et on va rentrer dans des débats d'enfer pour savoir si c'est normal qu'il y ait du poisson le vendredi, etc. Parce qu'on est dans une école laïque, ça ne devrait pas, patati patata. Moi, je crois que tous ces débats-là, on n'en a rien à faire. Ceux qui les mènent, ils disent autre chose. Ils visent encore à augmenter la fracture au sein de la population sur ces terrains-là. Ils visent à faire des voix en utilisant la peur de l'islam qui est développée, etc. Mais c'est pas notre problème. Il faut qu'on arrive à convaincre un certain nombre de travailleurs autour de nous, de familles, de mamans, etc., que tout ça, c'est une façon de nous diriger vers autre chose que ce qui doit nous préoccuper. Ce qui doit nous préoccuper, c'est notre façon, nos conditions de vie, c'est l'exploitation qui est en train d'augmenter, c'est le fait qu'on laisse des tas de jeunes sans travail. C'est le chômage, etc. Voilà, c'est tout ça qui doit se préoccuper. C'est des réponses à ces problèmes-là qu'on doit proposer de façon politique. Bon, c'est ce que nous essayons de faire toute l'année. Mais il ne faut pas qu'on se laisse diviser ni entraîner sur des sujets qui, quelque part, sont pas du tout les nôtres et qui nous-mêmes ont du pas.
J'ai regardé. C'est fini ?
Il faudra être proche pour un truc. Et moi aussi, dans ma réponse.
Je vais prendre un avis un petit peu différent parce que je suis enseignant à Vichy-sous-Bois et j'ai affaire à des adolescents qui sont tous, peu importe leur religion d'ailleurs, c'est pas une question d'islam. Il y a aussi des chrétiens, des protestants, des juifs. Tous sont très très portés sur le discours religieux et bah, je voulais juste signaler en tant qu'homme de gauche depuis toujours et en tant qu'athée et en tant qu'enseignant, on se sent relativement isolé face à ce discours religieux et on s'est senti en tout cas les athées et les gens commencent à se sentir un peu abandonnés par, par les gens de gauche de ce point de vue-là. Parce qu'on s'est senti seul, parce que, bah, que ce soit hier ou le parti de gauche, on a senti une gêne sur cette question, effectivement, notamment au niveau de la question de l'islam. Parce qu'effectivement, il n'est pas évident de rajouter de l'oppression à de l'oppression, et ça je peux comprendre aussi ce point de vue de la part du courrier. Mais je pense que la question religieuse, à l'école, en tout cas à l'heure actuelle, en tout cas moi c'est ce que je ressens, prend une importance de plus en plus grande dans la parole des élèves. Et nous, les enseignants, on se sent bah, relativement isolés en fait sur cette question face à la religion. Et je pense que les ouvrières, ou peu importe n'importe quelle partie gauche, ou toute personne qui se dit communiste révolutionnaire, doit d'abord parler à ces adolescents qui se perdus face à cette société, perdus face à cette crise, se réfugient malheureusement dans ces avis religieux extrêmes, non contrôlés. Donc je pense que c'est là peut-être qu'on... J'aimerais une réponse en fait de l'utopie là-dessus. Voilà, merci.
Alors, bien sûr, il n'y a pas une réponse unique à ce que tu dis, mais en tant qu'enseignant, tu peux tout à fait, toi, défendre le matérialisme. J'espère même que tu le fais, voilà, enfin, je suppose. Voilà, et je pense que tous les militants qui sont en même temps enseignants, ils ont à cœur de défendre le matérialisme. Donc, de donner des éléments à ces jeunes, à ces adolescents, à ces enfants, ils aideront à se diriger, à remettre en cause un certain nombre de dogmes, etc. Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est bien évidemment l'évidence. Maintenant, pour emporter le morceau, c'est pas seulement une histoire de connaissance, c'est pas seulement une histoire de est-ce qu'on a les outils, on peut, d'ailleurs il y a des tas de scientifiques qui sont religieux, donc c'est pas que un problème de connaissance. De ce point de vue-là, ils sont sûrement bien plus calés que moi, ça c'est sûr, et peut-être que toi, et que nous tous ici, pour apporter les connaissances nécessaires qui contredisent le discours religieux. Mais ça ne suffira pas, parce qu'à un moment, c'est autre chose. Et ce autre chose, on ne peut y répondre que sur un terrain de classe. Et c'est là où il faut sortir un peu du dialogue, soit sur la laïcité, soit sur la religion ou pas la religion, mais pour en venir à par rapport au problème d'aujourd'hui, de sentir le problème que ces jeunes ont, encore une fois, ça peut être quand même assez différent d'un jeune à l'autre, pour leur répondre sur réellement ce qui leur pose un problème. Et là-dessus, il faut, oui, qu'on apparaisse profondément anti-impérialiste, comme profondément anti, comment dire, anti-nationaliste, parce que c'est pas les Français contre les autres. Il y a un certain nombre, c'est difficile là de faire en deux minutes une liste, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que nous, on soit encore plus anti-impérialiste, que ça soit extrêmement clair, parce que c'est de cette façon-là qu'on peut les gagner. Là, on a eu un certain nombre de discussions où ça apparaissait justement. Des jeunes, issus de l'immigration souvent, qui étaient surpris de notre langage, qui étaient surpris qu'on puisse être dans les mouvements là. Ne serait-ce qu'on souligne le nombre de morts que les Américains sont en train de faire avec des drones d'assassinats pur et simple, pas seulement de l'islamiste en question, mais aussi de sa famille et de tout son immeuble, etc. Bon, tout ça, c'est quand même des meurtres, c'est pas autre chose. Qu'on dise la responsabilité de l'impérialisme dans tous ces événements. Ces jeunes-là, ils ont souvent été surpris. Bah, parce que pour eux, un blanc, c'est ce côté-là, un noir, c'est ce côté-là, un maghrébin, c'est ce côté-là, etc.